tous les passionnés de tennis se réunissent dans cours numéro 1 avec La Centrale. Retrouvez les infos et les débriefs des matchs dans ce podcast 100% tennis, disponible sur rmc.fr, l'appli RMC Sport et toutes les plateformes de streaming et de téléchargement. La Centrale, vous connaissez quelqu'un qui s'y connaît.
Vous écoutez
RMC. RMC, Intégral Foot.
François Pinet.
Salut à toutes et à tous, il est 15h06, très très heureux de vous retrouver pour lancer l'Intégral Foot qui se prolongera jusqu'à 19h, l'heure de Bartoli Time sur RMC. Vous le savez, au programme de cet après-midi, un Metz-Saint-Etienne indécis, capital pour les deux équipes, barrage retour, l'une des deux équipes sera en Ligue 1 la saison prochaine et l'autre évoluera en Ligue 2. Coup d'envoi 17h, on va en parler longuement avec Marion Hédalo. Salut Marion.
Bonsoir.
Et Roland Courbis, salut coach.
Salut les amis.
Dans un instant, on va aller d'ailleurs à Saint-Symphorien où l'ambiance promet beaucoup. Nos invités pendant cette intégrale foot, Sylvain Castendutch, capitaine historique du FC Metz, ancien joueur de Saint-Etienne, sera avec nous dans une heure. Grégory Proman, autre capitaine emblématique de Metz, sera aussi avec nous en direct dans 40 minutes. Et puis bien sûr, Jean-Michel Larquet, capitaine, viendra nous faire un petit coucou avant ce match entre Metz et Saint-Etienne, supporter des Grenats et des Verts. On vous attend dès maintenant au 32-16, vos messages aussi sur l'appli RMC Direct Studio et sur le hashtag RMC Live sur X. Dans un instant, on reviendra aussi avec Marion et coach sur la finale de Ligue des Champions remportée par le Real Madrid et la suite aussi pour ce Real Madrid sans Kroos mais avec Kylian Mbappé. Comment Mbappé peut-il s'installer dans cette équipe titrée pour la 15e fois hier? On ira d'ailleurs à Madrid avant les festivités de ce sacre. Et puis on débriefera aussi le reste de l'actu foot avec Marion et coach, avec notamment les derniers mots de Franck Macron, le propriétaire de l'OM dans le JDD aujourd'hui, qui assure à nouveau que l'OM n'est pas à vendre et il promet un nouveau projet cet été, toujours avec Pablo Longoria. Et pour les fans de foot, il ne faut pas manquer le retour du coffre RMC avant l'Euro, puisque dès ce week-end, vous pouvez vous inscrire pour gagner un super cadeau. Si vous êtes sélectionné, vous repartirez avec un barbecue à gaz Weber d'une valeur de 700€. Si vous osez ouvrir le coffre RMC, vous pouvez repartir avec la Total Euro 2024. Il y a un vidéoprojecteur Samsung, un écran de projection, un barbecue électrique, un fauteuil FFF, Konix, une machine à glaçons, la mascotte de l'Euro.
Mais j'adore. Bref,
magnifique. Hein.
Mais c'est une belle soirée de l'Euro, ça. C'est des très belles soirées de l'Euro, ça promet.
Donc soit vous choisissez ça, ou alors l'enceinte connectée à LED avec micro pour écouter les matchs sur RMC. Bref, des super cadeaux à gagner. Pour ça, il faut vous inscrire. Dès que vous entendez ce signal sonore, dès que ce signal intervient sur RMC, vous aurez 5 minutes pour vous inscrire en envoyant coffre au 732-16, coffre au 732-16, le signal sonore qui peut tomber à n'importe quel moment dans l'intégrale foot et même à plusieurs reprises, donc soyez bien à l'écoute. Avant d'aller à Madrid, pour revenir sur la victoire du Real hier, on va prendre la direction de la Porte d'Auteuil. Roland Garros, les 8e de finale aujourd'hui en direct sur RMC avec Eric Salio et Florent Serra. Salut messieurs.
Salut François, salut à tous. Flo est parti chercher les cafés parce qu'on en a besoin.
Bah bien sûr, bien sûr. Et puis la petite pause toilette, puisque des fois ça peut durer longtemps. On l'a vu hier avec Novak Djokovic. T'es bien réveillé toi Eric, c'est bon.
Je suis bien réveillé, c'est un grand terme. Mais ça va aller, ça va aller. En plus on a deux beaux matchs. On a
magnifique.
Deux beaux matchs actuellement sur les deux principaux courts, à savoir sur le center court. Non, sur le court Philippe Châtrier. Carlos Alcaraz qui mène une manche à zéro face à Félix Auger-Aliassime au début du deuxième set. Et puis il y a un match dont je reviens, je suis allé me régaler. Arnaldi Tsitsipas, l'Italien, ah oui, et le Grec, c'était magnifique. Arnaldi a failli mener deux manches à zéro, mais finalement, il y a un set partout sur le court Suzanne Aglen. 6-3 Arnaldi, 7-6 Tsitsipas. Et le Grec a le break dans le troisième set, il mène 2-1.
Et on va suivre ça avec toi Eric et avec Florent Serra, bien évidemment, bon. Dans un instant, il va revenir, parfait. Qualification de Świątek, de Vondrousova et de Gauff chez les dames, qualifiées pour les, les quarts de finale. Exactement, donc on va suivre ces huitièmes de finale passionnants à Roland-Garros. Au programme également de votre après-midi, le début du Critérium du Dauphiné, c'est une sorte de répétition générale en miniature du Tour de France. Pas de Tadej Pogacar qui se repose après sa victoire sur le Giro, mais il y a quand même du beau monde qui veut se tester avant avant le Tour de France. Arnaud Souk suit pour RMC cette première étape du Critérium du Dauphiné. Salut Arnaud.
Salut François, salut à toutes et à tous. Effectivement, du beau monde à l'image à l'instant. Sepkus, notamment le leader de l'équipe Visma, Lisse Bike avec Matteo Jorgensen, l'américain. On a également Primoz Roglic, ancien vainqueur de ce Critérium du Dauphiné, ancien deuxième du Tour de France. Remco Evenepoel aussi. La question, ça sera de savoir, notamment pour Remco Evenepoel, voilà, dans quel état de forme il sera cette semaine. On rappelle qu'il avait été pris dans la même chute que Jonas Vingegaard sur le Tour du Pays Basque au début du mois d'avril et que lui aussi s'était fracturé de manière assez importante la clavicule et avait subi plusieurs autres blessures. C'est sa reprise, il n'a pas de grand objectif cette semaine, nous a-t-il dit, mais voilà, il va au moins jauger son état de forme. Pour notre étape du jour, je ne sais pas si tu as les images, François, oui. C'est assez lunaire hein, quand même ce qu'on voit, du brouillard quasiment, du crachin.
Pour un mois de novembre, que... ça va, c'est un temps que...
Voilà, c'est ça, qu'on se croirait en novembre ou en février. Quoi. Il manque plus que les anoraks et bon, heureusement, voilà, la température reste relativement correcte, mais vraiment, on ne se croirait pas du tout sur les routes du Critérium du Dauphiné au mois de juin. En tout cas, 74 km encore à parcourir dans cette première étape au Tour de Saint-Pourçain-sur-Sioule. Deux hommes en tête, Mathis Lebert et le Britannique Marc Dodovan. Ils ont 3 minutes et 6 secondes d'avance sur un peloton, notamment mené par les hommes de la Lidl Trek. Et oui, parce qu'on imagine potentiellement une arrivée au sprint. Décathlon AG2R également est venu se mêler à la poursuite, puisque Décathlon AG2R va essayer, pourquoi pas, d'offrir la victoire à Sam Bennett, à moins que Dorian Godon nous refasse voilà, quelques coups dont il avait été maître sur les routes du dernier tour de Romandie, puisque lui aussi a une très belle pointe de vitesse. On l'avait appris ce jour-là.
Et on va suivre, bien sûr, avec toi cette première étape du Critérium du Dauphiné. L'arrivée, bien sûr, à suivre en direct. Et dès qu'il se passe quelque chose, tu nous appelles, Arnaud. Hein. N'hésite pas.
Absolument.
Bien évidemment. On va aller à Madrid maintenant, avant de revenir sur la finale de Ligue des Champions hier remportée par le Real Madrid. Pierre Thévenet était sur place. Il est toujours sur place pour vivre les festivités. Salut Pierre.
Salut François, bonjour à tous.
Alors d'abord une information sur Kylian Mbappé que l'on vous donne. Il a signé son contrat avec le Real. Il ne reste plus que l'annonce de l'officialisation. Donc ça sera soit demain, soit mardi. On suivra ça et on va reparler de Kylian Mbappé avec toi. Mais d'abord Pierre, raconte-nous un petit peu comment c'était l'ambiance hier. On avait l'impression que bah, ça y est, c'est une grande habitude pour le Real Madrid d'être champion d'Europe.
Je dirais presque, ils sont lassés, presque, les Madrilènes. Certainement, tous les Madrilènes étaient dans les bars, hein, dans les restaurants, dans les stades pour regarder le match hier soir. Tout Madrid était concerné par la rencontre. Mais c'est vrai qu'en fin de match, il y a eu une petite explosion de joie, bien sûr, au coup de sifflet final. Et puis après, pas grand chose. Tout le monde s'est dirigé, en fait, presque machinalement vers la Plaza des Cibeles, qui est le lieu habituel des célébrations du Real Madrid. Tout le monde savait qu'il fallait y aller. Tout le monde y est allé. Les forces de l'ordre avaient déjà aménagé la place, mis les barrières là où il fallait. Tout était très organisé et puis pendant presque une heure, pas grand chose, pas une énorme ambiance. J'avais un fan argentin à côté de moi, un fan de River Plate qui me disait mais ils sont complètement fous, si à River on gagne ce type de match, la ville est déjà retournée au bout d'une demi-heure. Et puis petit à petit les supporters sont arrivés, notamment ceux qui avaient regardé le match au Santiago Bernabéu, et là l'ambiance est montée et évidemment a duré une grande partie de la nuit avec les pétards, avec les vuvuzela, avec les klaxons des voitures pour célébrer cette quince, ce 15e titre de champion d'Europe.
Alors même évidemment s'ils en ont l'habitude, je pense que la fête sera belle aussi aujourd'hui. On attend le retour des héros avec impatience à Madrid.
Oui, on les attend d'ici la fin d'après-midi. Les Madrilènes, ils devraient arriver vers 18h à la cathédrale de la Almudena. C'est là que leur parade va démarrer. Ils vont ensuite notamment se rendre à la Plaza des Cibeles, justement ce lieu de rencontre des supporters madrilènes, pour terminer les célébrations au stade Santiago Bernabéu. Ce sera autour de 22h. On attend des dizaines de milliers de personnes, hein, voire une centaine de milliers pour célébrer ce titre.
Et puis on en a parlé donc de Kylian Mbappé, arrivée officielle sans doute, ça va être annoncé demain ou mardi. Est-ce que on parle de ça déjà à Madrid? Est-ce que Kylian Mbappé est dans toutes les bouches, toi qui es là depuis cette semaine?
Alors, il est dans toutes les bouches, oui, mais on s'est presque interdit d'en parler jusqu'à la finale de la Ligue des Champions. C'était le mot d'ordre du club du Real Madrid, qui n'a absolument fait filtrer aucune information quant à son arrivée, qui n'a pas du tout parlé de la signature de son contrat. Les supporters, eux, évidemment, en parlent, hein, et ils sont un petit peu partagés. Il y a ceux qui disent il nous a bien mené en bateau en 2022, il va devoir faire ses preuves. D'autres qui disent on est déjà tellement fort que ça ne changera pas grand-chose qu'il vienne ou pas. Mais la grande majorité sont bien sûr très très heureux d'accueillir le capitaine de l'équipe de France. La plupart, hein, hier me disaient bon bah voilà, on en a gagné 5 en 9 ans, on va en gagner quoi, 5 sur les 6 prochaines années avec lui. On est en tout cas très très confiant quant à son apport au sein de l'équipe l'année prochaine.
Bah merci beaucoup Pierre pour toutes ces infos, et tu nous feras vivre évidemment les festivités de ce nouveau sacre pour le Real Madrid en direct de la capitale espagnole. Coach et Marion, on va pouvoir revenir sur cette finale. Bon, il y a eu beaucoup de choses de dites hein, sur l'antenne d'RMC. On va reparler aussi de Kylian Mbappé. On l'a entendu dans les mots de Pierre, ils en ont l'habitude et ils ont fait un match comme ils en ont l'habitude. C'est-à-dire que certes, ils auraient pu encaisser des buts et finalement, ils sont à nouveau champions d'Europe, Marion.
On connaît le scénario hein, maintenant. Ouais. C'est-à-dire que vraiment.
C'est ce qu'on se disait à la mi-temps, non ?
Voilà, on se disait
Dortmund a laissé passer sa chance.
Voilà, Dortmund a joué très bien, a fait une très belle première mi-temps, mais on sait qu'au bout du compte, ça sera 1-0 pour le Real, 2-0. Alors là, il se trouve que c'est 2-0, 3-0, on ne sait pas, 3-1. Mais en tout cas, oui, à la fin, c'est Real qui gagne. Et je comprends un petit peu cette lassitude des supporters. Alors on leur sert du champagne et du caviar chaque année, et c'est vrai que, eh bien, ils en ont l'habitude, et c'est ce qu'on entendait à l'instant. Mais en tout cas, non, ils sont obligés de se concentrer sur les joueurs et sur le mercato parce qu'il n'y a plus grand chose qui les excite et les amuse.
Mbappé, ça va peut-être les exciter.
Exactement.
Donc j'avais cette question.
Exactement.
Est-ce que il va arriver dans un club champion d'Europe? C'est sûr qu'il y a beaucoup de d'avantages, évidemment, mais est-ce que l'intégration de Mbappé va être facile dans ce Real Madrid-là que l'on a vu hier contre Dortmund?
Mais c'est vrai qu'on se demande si le Real a vraiment besoin de Kylian Mbappé. C'est ça ma vraie question. C'est-à-dire que on voit un Real qui ça roule, quoi. Ça roule. On voit un Vinicius qui est, pour moi, le meilleur joueur actuellement dans le monde. Un Bellingham qui fait le job. Un milieu fantastique, même si, évidemment, il y a le départ de Kroos. Et puis, Kylian Mbappé, qui, moi, je trouve, n'est pas très affûté en ce moment, un petit peu grossi. Je sais que là, François, tu me regardes en te disant, mais voilà, c'est de la radio. Enfin, tu me regardes bizarrement, mais.
Pas du tout.
Oui, on a quand même l'impression que Kylian Mbappé n'est pas au mieux de sa forme.
Ah ben ça, je suis d'accord avec toi.
Et donc, est-ce que vraiment le Real a besoin. Moi, je comprends que Kylian.
Après, ça sera peut-être pas le Kylian Mbappé d'actuel.
Ouais, on en connaît des très forts qui sont plantés au Real, des Eden Hazard, des Kaka, hein, qui arrivaient du Milan AC, ouais. Et qui, de l'AC Milan, pardonnez-moi, et qui, au bout du compte, ont eu quelques difficultés. C'est un club compliqué. Le Real Madrid, oui. Très compliqué, et Florentino Pérez est plus difficile à vivre que Nasser Al-Khelaifi.
Coach,
mais on va voir ça avec beaucoup de curiosité, comme les passionnés que nous sommes. Mais c'est vrai que je suis d'accord moi aussi avec ce que je viens d'entendre, dans le sens que on va regarder avec curiosité ce qui va se passer, puisque ce Real Madrid de cette année, évidemment, ça reste ce Real Madrid. Hors du commun, avec une 15e victoire à Champions League, mais c'était un Real Madrid qui, pour une fois, n'était pas favori, avec les problèmes de blessures qu'ils pouvaient avoir avec leurs défenseurs.
Le
gardien de but Courtois, qui est l'un des meilleurs gardiens du monde, si ce n'est le meilleur gardien du monde, ben, qui se faisait les croisés. Pas de véritable numéro 9. Bellingham, qui faisait sa première saison, et on ne sait jamais ce qui peut se passer dans la première saison. Donc il y avait un grand point d'interrogation. Alors que le Real Madrid de la saison prochaine, ça restera évidemment ce Real Madrid hors du commun, mais avec là l'étiquette de vraiment favori, presque en se disant bon voilà, ben ça va même pas être amusant quand on va jouer. Et comme le football est capricieux, ben on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt, beaucoup d'attention, et on va suivre évidemment ce que va faire Kylian après une année, je dis bien une année vraiment pénible, ouais. et qui est pas terminé, c'est-à-dire je parle d'une saison. Donc il y a maintenant encore le championnat d'Europe avec l'équipe de France où on l'attend au tournant, puisque le dernier championnat d'Europe, on s'était raté contre la Suisse avec un penalty raté, un tir au but. Donc on attend maintenant l'équipe de France, et évidemment si on attend l'équipe de France, on attend Kylian Mbappé. Ouais. Bon bref, ça va être passionnant.
Avec au Real Madrid quand même sa place, a priori, ça serait la place de Rodrigo dans le 11 titulaire par rapport à ce qu'on a vu hier.
Ah bah oui, oui,
a priori.
Oui.
Évidemment, c'est pas son poste de prédilection, mais il est déjà pris le poste de prédilection de Kylian Mbappé au Real Madrid, c'est Vinicius. Coach, si on parle un peu tactique, ça veut dire que Kylian Mbappé jouera pas à gauche.
Et c'est pas interdit non plus les permutations. Ce qui va surtout, ce qu'on va voir aussi, c'est l'intégration de Kylian Mbappé qui est suffisamment intelligent pour arriver à se faire adopter d'entrée dans ce vestiaire. Ce sera son premier boulot. Et un garçon comme Vinicius, on peut permuter. N'oublions pas qu'en 2018, c'était pas un Mbappé qui jouait à gauche. Il y avait un Mbappé qui jouait à droite. C'était Matuidi qui jouait à gauche. Donc maintenant, qu'il puisse y avoir des permutations, mais ça reste toujours quand même un Real Madrid sans véritable numéro 9. Mais bon, on va pas quand même pleurer là-dessus. Et on va pas leur mettre Haaland, tu vois, des fois, que si des fois ils ont besoin d'un véritable numéro 9, il y en a un du côté de City.
Allez, on va retourner à Roland-Garros pour suivre l'un des favoris de la compétition, Carlos Alcaraz, avec Eric Salio et Florent Serra. Salut Florent, puisqu'on ne t'a pas salué tout à l'heure.
Non, c'est Eric, il est, en tant que passionné, je disais, il a veillé très tard hier, vous savez,
oui,
c'est
fabuleux
le match, du coup je suis allé lui chercher un petit café.
Je t'ai cherché en tribune, je t'ai pas vu d'ailleurs.
Non.
Tu dormais déjà, quoi. Tu dormais, en fait, quand Djokovic était sur le court. Ah ouais, d'accord. Là, ça va, t'es réveillé.
Oh, complètement. Mais j'avais fait toute la journée hier. Il fallait que je récupère un peu parce qu'on a une belle night ce soir.
Mais en même temps, c'est complètement fou. Bon, on va pas revenir là-dessus. Vous en avez parlé. Mais bon, c'est vrai que ce match qui s'est terminé au-delà de 3h du matin. Bravo à tous les passionnés et à vous aussi qui commentez les rencontres d'être restés jusqu'au bout. En même temps, ça valait le coup. C'était magnifique. Ça risque de durer peut-être un peu moins longtemps pour Alcaraz, qui pour l'instant domine le Canadien, Ojeda Aliassime, messieurs.
Oui, c'est 1h10 de jeu et l'avantage est assez net pour Carlos Alcaraz, même s'il n'y a qu'un set de jouer, Flo, mais il a montré une belle chose, 6-3. On est à 2 partout dans le deuxième, mais on sent que Félix Ojeda Aliassime va tenter de revenir. Il a eu des balles de break, mais il ne les a pas concrétisées et ça va être le problème. S'il n'arrive pas à saisir ses opportunités, il risque de s'en aller.
Et de forcer aussi un petit peu son jeu. Eric, comme on le voit souvent, Félix Ojeda Aliassime qui est puissant, qui peut faire pas mal de coups gagnants, mais aussi quand il trouve pas de solution, forcer un petit peu son jeu et faire justement pas mal de fautes directes. Il avait super bien débuté la partie en breakant d'entrée d'ailleurs Carlos Alcaraz, mais qui a plutôt bien réagi et bien géré cette manche avec beaucoup de variations. On le voit tenter beaucoup d'amortis. Parfois, il n'y a pas la réussite, mais je trouve que ces variations de rythme et de hauteur de balle sont très bons et qui gênent bien Félix Ojeda Aliassime pour le moment.
Et puis sur le court, Suzanne Lenglen, ça commence à prendre forme pour Stefanos Tsitsipas, puisque le Grec est à égalité une manche partout avec l'Italien Matteo Arnaldi, celui qui avait éliminé Arthur Fils au premier tour. 6-3 Arnaldi, 7-6 Tsitsipas et 5-1 déjà pour le Grec dans cette troisième manche. En principe, il a fait le plus dur, Flo. Là.
Oui, et puis il a vraiment loupé le coche, Arnaldi aussi, dans la seconde manche, puisqu'il a eu 4 balles de 2-7-0. Et ça fait mal quand même quand tu joues contre un joueur comme Tsitsipas, qui est aussi très physique. C'est vrai que ça s'est joué là, parce que Tsitsipas était assez loin de sa ligne face à la puissance d'Arnaldi, qui est un joueur qui prend beaucoup de risques, qui frappe très bien la balle, qui utilisait parfaitement son revers le long de la ligne. Et Tsitsipas avait du mal à utiliser son coup droit, c'est son meilleur coup. Et il a très bien réagi en remportant le tie-break de la seconde manche. Et là, il déroule pour l'instant dans ce troisième set. Mais il y a eu une belle réaction de Stefanos Tsitsipas, notamment en essayant de raccrocher sa ligne de fond de court. Il a réussi.
Et François, on pourrait donc avoir un quart de finale Tsitsipas-Alcaraz.
C'est sympa.
Pas mal, ça.
Pas mal. Ah ouais. En effet, on a hâte.
On ne sait pas qui va gagner Roland, mais au moins, on a des beaux quarts pour l'instant.
Oui. Alors attention, c'est pas terminé, évidemment.
Non, c'est pas terminé.
Tout peut changer.
Ça se présente bien.
Merci beaucoup. À tout à l'heure pour continuer à faire le point sur ces huitièmes de finale de Roland-Garros. Un point avec toi aussi, Arnaud, sur le critérium du Dauphiné, notre direct vélo que l'on va suivre, bien sûr, à quelques semaines du Tour de France maintenant.
Avance quasi inchangée pour les deux hommes de tête. 3 minutes 13 en faveur de Mathis Lebert, le français, du britannique Mark Donovan, qui est passé en tête de toutes les difficultés du jour et qui portera donc demain le premier maillot à poids de ce critérium du Dauphiné. 62 km 400 encore à parcourir et donc le peloton qui actuellement est mené notamment par deux équipes, Lidl Trek et Decathlon AG2R, qui roulent évidemment pour les sprinters Sam Bennett, Mads Pedersen, mais il y en a d'autres que l'on peut citer, Ivan Garcia Cortina, Clément Venturini, Milan Menten, Hugo Page ou encore pourquoi pas Dorian Godon qui pourrait se mêler tout à l'heure à la lutte pour la victoire d'étape ici à Saint-Pourçain-sur-Sioule. 62 km encore à parcourir.
15h24 sur RMC, vous restez avec nous. Dans un instant, on va parler de l'OM avec coach Courbis, avec Mario Hidalgo, les derniers mots de Franck McCourt, le propriétaire qui fait la tournée des médias pour rassurer sur son investissement. Il veut rester à l'OM et propose un nouveau projet. Est-ce que vous y croyez encore? Venez nous le dire. On en parle dans un instant dans l'Intégral Foot. À tout de suite.
RMC Intégral Foot.
François Pinet.
15h27, de retour dans l'Intégral Foot. Mario Hidalgo, coach Courbis. Vous écoutez RMC, vous avez raison. On vous accompagne jusqu'au coup d'envoi de Metz-Saint-Etienne, 17h aujourd'hui. On aura la chance dans un instant d'être avec Sylvain Castendutch et Grégory Promant, deux capitaines emblématiques du FC Metz. Et Captain Larquet viendra évidemment nous voir. Roland Garros avec une nouvelle balle de 7 pour Tsitsipas face à Arnaldi. Flo Serra avec Eric Salio.
Oui, balle de 7 pour Stefanos Tsitsipas. Ça confirme qu'il a vraiment repris au prix. Plus précisément l'ascendant sur Matteo Arnaldi après avoir vraiment vécu des moments très difficiles, parce que franchement pour être allé sur le court, Arnaldi était le plus fort. Voilà, c'est fait 2-7-1 pour Stefanos Tsitsipas, et inquiétude sur le central pour Félix Auger-Aliassime, ah, puisque le kiné est au chevet du Canadien. Tu as vu des trucs, Flo?
Bah en fait, ça fait quelques jeux où je vois Félix tenter beaucoup et jouer sur des filières de jeu très courtes. Et il a grimacé là en allant s'asseoir. Donc bon, il a abrégé l'échange, mais en même temps, c'est un joueur aussi qui prend beaucoup de risques. Et là, on voit le kiné qui vient de lui masser un peu l'intérieur de la cuisse, l'adducteur. Donc pour les glissades, c'est pas top. Et il est en train de regarder un peu le bassin, le bas du dos. Ça a pas l'air folichon là pour Félix.
6-3-3-2. Pour Alcaraz avec un break réalisé il y a quelques secondes par l'Espagnol. Donc ouais, il est vraiment dans la meilleure position possible, ouais. Le numéro 3 mondial, demi-finaliste l'an passé. On va espérer que Félix aille au bout, parce qu'on a eu un programme terrible, hein. Je ne vais pas tomber sur le tennis féminin, mais si. Les deux premiers matchs, franchement, 6-0, c'est honteux. C'est honteux pour
Tennis Féminin. Qui a mis, oui, 6-0, 6-0.
Potapova qui fait 10 points. 10 points. Elle prend 6-0, 6-0 en 40 minutes.
J'aurais
elle
pas
n'a pris que 10 points. Et derrière, Coco Gauff aussi qui s'est trimballé contre Cocciaretto. C'est pas une belle image pour le tennis féminin. C'est dommage, parce que autant chez les mecs, là, ça bastonne. Mais là, ouais.
Ok,
j'en dis pas plus.
Bon, on va suivre.
Non, mais quand c'est pas bon, c'est pas bon. Il faut oser le dire. Ah, hein. Moi, qui suis une femme, il faut oser le dire, bien sûr.
Osaka Scientech était formidable,
voilà. Génial. Voilà, franchement,
ouais, exactement.
C'était génial pour l'instant.
Bon, on va suivre Félix Auger-Aliassime, évidemment, oui. Son état physique. Hein, pour l'instant, il retourne au vestiaire pour se faire soigner. Alcaraz, qui pour l'instant domine donc le Canadien, et on va suivre également Tsitsipas, qui donc mène 2-7-1. Vous l'avez dit, face à Arnaldi. On revient vers vous, messieurs. On va continuer à parler de foot avec Marion et coach. Parler notamment des mots de Franck McCourt, le propriétaire de l'OM. C'était dans le JDD aujourd'hui. Il fait la tournée des médias en France. Hein. Il rappelle que l'OM n'est pas à vendre, et il a dit cette phrase: je m'inscris ici sur le long terme avec Pablo Longoria aux commandes d'un nouveau projet à long terme que nous allons lancer cet été. Voilà. Il n'en dit pas plus, hein, sur les contours de ce nouveau projet, donc ça reste un peu flou, mais il explique aussi qu'il espère pouvoir venir plus souvent, voilà, comme un propriétaire très engagé qu'il souhaite être du côté de l'OM. Alors je vous pose la question, est-ce que vous croyez qu'un nouveau projet avec McCourt et Longoria, c'est possible à l'Olympique de Marseille? On en a vu plusieurs des projets.
Ah, ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'il ferme vraiment définitivement la porte à cette idée que le club serait vendu. Ça fait des années qu'il l'explique et que visiblement beaucoup ne le croient pas, mais quand il dit je suis là pour longtemps, il est peut-être là pour longtemps quand même, ça il faut le croire. Mais sur le projet, non, mais on sait très bien ce que c'est le projet. Ça veut dire un nouveau coach viré dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 mois, on ne sait pas.
C'est pas un projet.
Et puis peut-être non, mais tu le disais hors antenne, François, peut-être donner un peu plus de possibilités aux jeunes du centre de formation, parce que je suis sûre que cette gambardella a fait réfléchir beaucoup de gens à Marseille, et qu'on s'attendait pas à ça. On a toujours dit depuis des années que le centre de formation à Marseille était faible. Eh bien, finalement, ça peut donner de nouvelles idées. Et puis, on sait qu'un nouveau projet, ça peut être simplement un ancien grand joueur venu d'Espagne ou ce genre de choses. Mais nouveau projet, je vois pas bien ce qu'il peut faire d'autre.
Coach,
bah, disons que je crois qu'il n'y a pas besoin d'être un détective pour avoir compris qu'il y a dû y avoir une discute avec Pablo Longoria pour dire que maintenant, bon, il va falloir quand même que vous preniez un petit peu la parole, parce que les réflexions et ce qu'on a pu entendre ces derniers temps du côté de l'OM, on n'a pas un patron, on ne sait pas ce qu'il fait, on ne sait pas ce qu'il a envie de faire, il vient jamais, puisque quand on voit un interview, c'est sympa comme interview, mais qui nous explique dans cette interview que il se régale de regarder jouer oui. l'OM, alors que la dernière fois qu'il les a regardés, c'est il y a pratiquement un an, donc et qu'il est vraiment très content de se retrouver à Marseille. On a l'impression qu'il est là une fois par mois, pour ne pas dire deux fois par mois. Oui, donc je crois qu'il rectifie un petit peu, qu'il a cru comprendre que sa situation et sa position, elle était très importante. Alors en premier, cette histoire de vente, mais je crois aussi qu'il doit être au courant qu'il n'y a pas une offre aussi importante que ce qu'il lui faudrait pour pouvoir vendre. Donc dans un premier temps, on rappelle que l'OM n'est pas à vendre ou n'est plus à vendre. Donc ça, on ne sait pas exactement comment il faut construire la phrase. Et toujours est-il que le projet, il y a un projet, évidemment, qu'il y a un projet, mais on attend du côté de Marseille, surtout un bel effectif, qu'il puisse y avoir deux, trois jeunes de la Gambardella qui puissent être dans les années à venir des joueurs importants, au moins des joueurs être capables d'être dans les 16, c'est-à-dire les 11 plus les 5 changements qu'il y a en cours de match. Pourquoi pas? Parce qu'il y a les U19 aussi qui jouent une demi-finale là, dans le championnat. Donc ça, on va attendre. L'entraîneur, évidemment, c'est très important. Le directeur sportif, président, on sait qui c'est. Mais maintenant, ce qu'on attend du côté de Marseille, c'est une évidence pour moi, c'est l'effectif. Qui va y avoir, quels joueurs vont arriver, quels joueurs vont partir, est-ce qu'on va réussir.
On dit ça tous les ans, coach.
Oui, est-ce qu'on
va réussir à chaque fois le mercato, que ce soit un mercato réussi.
Tous les ans, mais bon, avant de réussir le prochain mercato, il faut savoir aussi que ça va être un mercato derrière une saison où justement on n'a pas réussi.
Ah oui.
Et donc, quand tu regardes les joueurs que tu as, et qu'en plus de ça, il faudrait faire rentrer de l'argent en ce qui concerne les ventes, je crois quand même être suffisamment intelligent pour savoir que pour faire rentrer de l'argent, il faut pas vendre les mauvais. Donc là, tu m'expliqueras comment on fait en vendant les joueurs de l'OM pour faire rentrer de l'argent. Non, je crois que justement Macourt aurait pu nous expliquer qu'il va s'occuper du projet, mais qui va s'occuper aussi du budget de l'OM, qui va être un budget capable de rivaliser avec, non pas Paris Saint-Germain, mais au moins Monaco, Lyon. Et là, à ce moment-là, on commencerait à retrouver espoir. Alors que là, oui, ok, il a pris la parole, mais j'attends avec impatience de voir quel joueur vont pouvoir débarquer du côté de Marseille.
Ouais, avec peut-être un coach pour les encadrer qui se nomme Sergio Conceição.
C'est Sergio Conceição, excuse-moi.
Il incarnerait un nouveau projet.
Moi, je trouve que c'est en plus une très bonne idée. Il réunit tout pour réussir, sa personnalité, le fait qu'il a déjà été à Nantes et que malheureusement, il a quitté Nantes alors qu'il était en train de réussir. Il connaît le championnat. Il vient de faire une superbe saison, une de plus, en gagnant dernièrement même la Coupe du Portugal contre le Sporting. Non, ça sera difficile de trouver mieux.
Moi, je trouve quand même que Marseille n'a eu que des bons coachs ces dernières années. Quand on voit la carrière de Villas-Boas, quand on voit
alors il y a eu Sampaoli,
c'est pas nul tout ça. Tudor, c'était pas mal du tout. Ouais. Rudy
Marcelino,
Garcia,
c'est une erreur quand même.
Pardon.
Marcelino.
Mais on n'en sait rien, pardon François. On n'en sait rien. Il reste pas assez longtemps.
Il n'était pas fait pour l'OM, quoi. Ça, c'est vu très vite.
Enfin, qui est fait pour l'OM hein? Parce que franchement, vu l'accueil,
c'est ça ou peut-être.
Mais d'accord, mais vu l'accueil qu'on fait à Gassé, il est trop vieux. Villas-Boas, oui. On regarde ça un peu comme si c'était alors que c'était des très grands coachs en fait. Moi, je trouve quand même que Marseille choisit souvent très bien ses coachs, mais on a l'impression que
parfois ça se finit mal avec les coachs. Ils veulent pas rester, c'est le cas de Tudor, le cas de Sampaoli.
Mais oui, mais peut-être qu'il faut être un peu plus gentil avec eux.
Ah bon, c'est une question de gentillesse, tu crois?
Mais non, mais quand je dis gentil,
c'est peut-être justement parce qu'ils voient qu'ils peuvent pas travailler correctement.
Quand je dis gentil, c'est une vue de l'esprit, cher François. Ce que je veux dire, évidemment, c'est que il n'y a pas un grand respect pour le coach à Marseille, et on sent que une seule erreur et c'est la fin. C'est pas normal que Marseille ait eu 4 coachs cette saison, enfin 4. Enfin, qu'est-ce qu'on attend pour donner un tout petit... Alors, je sais qu'il n'y a pas de patience dans cette ville, mais quand même, de donner quand même une possibilité,
un horizon. Là, il parle d'un projet horizon à long terme. Donc, ça veut dire qu'il va falloir garder un entraîneur, même si les résultats ne sont pas là.
Et moi, je pense que c'est possible
à Marseille.
Ben, je pense que c'est ce qu'il faudrait faire.
Quand tu es supporter de l'OM, tu penses que tu vas changer ta vision pour ton club préféré parce qu'on t'annonce que l'entraîneur va signer un contrat de 3 ans?
Non mais je sais pas ce que ça veut dire projet à long terme, coach.
Si tu annonces que l'entraîneur, la nouveauté dans le projet de l'OM, c'est que l'entraîneur va signer un contrat de 3 ans. Ben, la première réflexion que tu vas entendre, ben, c'est qu'il va recevoir vraisemblablement un chèque de 2 ans. Donc, ce sont des mathématiques. Mais moi, ce que j'attends avec impatience, et je pense que c'est la même chose pour tous les passionnés de football et ceux qui en plus sont passionnés pour l'OM, c'est en ce qui concerne l'effectif. N'oublions pas que bon, on est bien gentils tous, après c'est la faute à lui, mais je me rappelle quand même il y a à peu près un an de ça, enfin un peu moins, une fois que le recrutement était terminé, la question sur les médias les plus importants et notamment notre journal préféré, ils sont tout seuls, qui s'appelle L'Équipe. Est-ce que l'OM va être champion et est-ce que l'OM va jouer le titre? Ce sont ça quand même les réflexions qu'il y a pu y avoir. Donc on s'est trompé du côté de l'OM et on s'est trompé aussi pour les passionnés qui font des commentaires,
pour les observateurs. Voilà, on va retourner à Roland Garros parce que il y a une bonne nouvelle sur le cours, c'est que Félix Auger-Aliassime est de retour, Eric Salio et Florent Serra pour commenter. Eric Salio, Flo Serra.
Les soins ont été utiles parce qu'il est sorti du terrain pour se faire manipuler. Donc c'est au niveau du bassin a priori, hein, Flo, peut-être un peu plus bas les adducteurs. Et il a eu balle des breaks, Félix. C'est dommage, il l'a pas concrétisé. Donc 6-3 Alcaraz, 3-2 Alcaraz et l'Espagnol est au service. Une balle pour faire 4-2. Flo, tu penses que ça
beaucoup
va tenir?
De fautes directes ouais, pour Félix, qui trois fois plus de fautes directes hein, que Carlos Alcaraz. On le voit un peu regarder aussi Fred Fontan et son équipe derrière. Et sur des, là vous voyez cette petite faute Eric, au moment où il faut pousser dans le replacement, moi je suis un peu plus inquiet, même s'il a tenté, qu'il y a eu une balle de débreak, je le trouve j'ai pas l'attitude d'aller chercher un match long en fait.
Bon bah écoute, ça veut dire que le quart de finale entre Tsitsipas et Alcaraz vraiment se profile, parce que sur le court Suzanne Lenglen, Stefanos Tsitsipas devient irrésistible. 3-6, 7-6, 6-2 et 2-0 dans le quatrième set pour le grec. J'en ai fait l'un de mes favoris avec Sacha Zverev avant le début du tournoi.
Ah, le pauvre.
Ce qui passe pour l'instant, mes chevaux sont toujours debout.
Tu ne disais pas ça hier.
D'ailleurs, j'ai un peu tremblé pour l'allemand, mais c'est passé. C'est essentiel.
On va aller à ça pour ça sur Sioule, dans l'Allier, avec Arnaud Souk qui suit la première étape du Critérium du Dauphiné. Où on en est, Arnaud?
Ça te fait bizarre hein, de venir à 100% sur Sioule, François. Ça ne doit pas t'arriver souvent.
Mais tu rigoles? J'ai passé beaucoup de vacances là-bas.
Ah,
j'ai de la famille qui est de l'Allier, et donc voilà, pour la petite histoire, j'allais en vacances du côté de Saint-Pourçain-sur-Sioule, et si on nous écoute là-bas, je les embrasse.
Voilà. Eh bien, grande terre de sport que l'Allier et notamment la ville de Vichy, non loin de Saint-Pourçain-sur-Sioule, qui est une grande terre de triathlon, une grande terre de natation également. Enfin bref, vraiment un très beau terrain de sport. Et pour les cyclistes aussi, aujourd'hui, Saint-Pourçain-sur-Sioule, on est à une vingtaine de kilomètres environ de Vichy. On n'est pas passé très loin. Il reste encore 49 km 800 à parcourir dans cette première étape du Critérium du Dauphiné. C'est la plus facile, entre guillemets. On rappelle qu'il y a quand même plus de 2000 mètres de dénivelé positif. positif aujourd'hui, ça ne fait pas peur au peloton, mais ça casse quand même déjà un petit peu les pattes, 49 km 700 à parcourir pour les deux hommes de tête, Mathis Lebert et le Britannique Mark Donovan, toujours de l'avance sur le peloton, mais une avance qui commence quand même à diminuer, 2,18 d'écart, donc en faveur des hommes de tête. On voit toujours les Lidl Trek, notamment pour Mads Pedersen, ou encore les Decathlon à G2R pour Sam Bennett, les deux favoris de l'étape, se placer en tête de peloton pour mener la chasse et réduire l'écart. Attention également à bien se placer du côté des leaders, notamment sur des routes très très étroites, et c'est la raison pour laquelle Primoz Roglic et l'équipe Bora Hansgrohe notamment occupent également les premières places du peloton. 49 km 300 encore à parcourir.
Merci Arnaud, dans un instant on va être avec Grégory Promant pour parler de Metz-Saint-Etienne. Tu avais un dernier mot à dire quand même, coach, sur Marseille?
Oui, pour terminer en ce qui concerne donc le discours de Macourt, c'est que maintenant du côté de Marseille, on est au courant que il n'y a pas le problème qui a pu être rencontré la saison dernière, c'est qu'il fallait faire un recrutement extraordinaire avec une rapidité extraordinaire, parce qu'il y avait les premiers matchs de barrage à jouer, et ce match de barrage, évidemment, ça s'est très mal passé. Là, il n'y a pas de match de barrage. Il y a même aussi une certaine tranquillité, c'est que tu n'as pas besoin de prendre 30 joueurs puisque tu ne vas pas jouer la semaine et avoir deux, trois matchs par semaine. Donc il y a quand même une tranquillité pour pouvoir faire un groupe, en ayant évidemment après un petit peu de réussite en ce qui concerne les blessures, un groupe qui préparera ses matchs avec une semaine chaque fois, et ça c'est quand même un avantage par rapport aux rivaux qui eux jouent des fois le mardi, le mercredi ou le jeudi.
Eh bien, c'est noté, bien sûr. On le sait, évidemment, et on suivra cette saison marseillaise. On continuera d'en parler, et toutes les infos à retrouver sur rmcsport.fr, notamment pour les infos mercato. Dans un instant, comme promis, Metz-Saint-Etienne, Grégory Promant, capitaine emblématique du FC Metz, en direct sur RMC dans l'intégrale foot. Restez avec nous, à tout de suite.
RMC, intégrale foot.
François Pinet.
Il est 15h45, merci d'écouter RMC, l'intégrale foot, Marion Hidalgo, coach Courbis, jusqu'à 17h, coup d'envoi de Metz-Saint-Etienne, à ne pas manquer en direct et en intégralité, barrage retour pour savoir qui évoluera en Ligue 1, qui évoluera en Ligue 2, ça sera avec Edgar Groslot, Patrick Muller aux commentaires et Jean-Michel Larquet pour les accompagner. On aura la chance d'être avec Captain d'ailleurs dans quelques instants pour nous parler des Verts, mais dans un instant également la composition des deux équipes. On ira au stade Saint-Symphorien, on y va déjà d'ailleurs, où on accueille Grégory Promant qui est aux côtés du stade. Bonjour Grégory.
Bonjour.
Capitaine emblématique du FC Metz, 300 matchs avec le club, ancien entraîneur de la réserve du club. Ouais, on est avec coach Courbis et Marion Hidalgo. Tu connais par cœur ce club qui joue le match le plus important de sa saison aujourd'hui. Il y a eu la défaite à l'allée de Buzyn que tu as suivi forcément à Saint-Etienne. Et est-ce que tu les vois capables de se reprendre par rapport au match raté?
Bah, c'est pas que je les vois capables, c'est qu'ils n'ont pas le choix de toute façon. Là aujourd'hui c'est le dernier match. On a raté le premier match, on a un but de retard. Il faut absolument gagner ce match. Là, il n'y a pas le choix. Cette année, le choix stratégique était plutôt de défendre et d'attendre un contre ou un éventuel exploit de Georges devant. Là aujourd'hui, on peut pas faire ça. Là, aujourd'hui, on doit prendre les choses en main puisque t'es perdu. Donc il n'y a pas le choix. Mais oui, j'y crois forcément. Si on n'y croit pas aujourd'hui, on n'y croit jamais.
Oui, comme tu viens de le dire, et bonjour, ça me fait plaisir de t'entendre. Comme tu viens de le dire, il y a un but de retard. Mais moi, je rajouterais, il n'y a qu'un but de retard. Donc c'est pour ça que c'est loin d'être mission impossible, mais c'est sûr qu'il faudrait être meilleur qu'il y a trois jours de ça, parce qu'il y a seulement trois petites journées, quatre et trois et demi, que nous avons vu un Metz, mais vraiment inquiétant. Donc la possibilité que les Messins fassent un meilleur match, c'est pas compliqué. Hein. Ça me paraît être une obligation.
Ce que vous dites est vrai. Après, ce qui s'est passé à Saint-Etienne, malheureusement, j'ai suivi quasiment tous les matchs cette saison. Et malheureusement, c'est ce qui s'est... Allez, les 95% du temps, c'est ce qui s'est passé aussi avec un jeu que les gens ne supportent plus, malheureusement, parce qu'il n'y a pas de jeu. Et c'est peut-être ça ce qui est inquiétant aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, comme on a un but, mais ce n'est qu'un but, mais on a quand même un but de retard, on va être peut-être obligé de faire quelque chose qu'on n'a jamais fait cette saison, c'est-à-dire à savoir à vouloir prendre le jeu en main. Et peut-être être nous aujourd'hui confrontés à des contre-attaques de Saint-Etienne et qui peuvent nous faire mal, parce que cette saison, mis à part le match de Nantes à l'aller et au retour, tous les autres matchs en possession de balle, Metz n'a jamais eu la possession. Et avec même une fois contre Lorient, les 15 premières minutes de la deuxième mi-temps, une possession de balle pour Lorient qui était derrière Metz à ce moment-là de 90% pour Lorient à Saint-Symphorien. Et là, c'est sûr que ça fait mal. Mais bon, aujourd'hui, ce qui m'inquiète, c'est qu'on va devoir faire quelque chose qu'on ne sait pas faire ou qu'on n'a jamais fait, ou très rarement fait. C'est-à-dire avoir le ballon peut-être et puis créer quelque chose.
Avec Georges Mikotadze, tu l'as dit, hein, Grégory Proman qui est avec nous en direct sur RMC, puisque tu l'as vu aussi grandir, hein, tu étais coach de la réserve et à Seraing aussi. Est-ce que tu t'attendais à le voir devenir si important pour le club? Parce qu'il a fait une demi-saison avec Metz, mais quelle demi-saison? Si Metz est aujourd'hui barragiste, c'est sans doute grâce à lui.
Genre, je l'ai connu, moi je suis arrivé en 2018 ici, je l'ai eu 3 ans dans mon effectif, et il faisait gagner les matchs. Non, pas 3 ans, 2 ans. 2 ans dans mon effectif, et il faisait gagner les matchs. J'ai eu du mal avec d'autres à le passer en professionnel. À l'époque, j'avais parlé à Philippe Gaillot de le prendre en séance d'entraînement. On m'avait dit, non, mais on sait qu'il est bon, mais il y a beaucoup d'attaquants. Et donc là, j'ai un peu haussé le ton en disant, je peux pas entendre ces conneries-là parce que c'est le meilleur attaquant qu'on ait. Maintenant, de là à dire que je savais qu'il allait être aussi bon que ça, non, on n'est jamais sûr de ça. On n'est jamais sûr. Maintenant, ce que je voyais sur mon sentiment à moi de l'époque, je trouvais que ce joueur-là était beaucoup plus fort que nos attaquants qu'on avait en professionnel. Et je l'avais dit à Philippe Gaillot. Maintenant, on peut ne pas partager mon avis, hein. Je détiens pas la vérité. Mais sur ce coup-là, je voulais qu'il aille franchir une étape encore et un palier au niveau professionnel qu'on a hésité à le mettre. Et d'ailleurs, c'est un palier qu'il a franchi à Seraing parce que monsieur Antonetti ne voulait pas ici, donc il est parti à Seraing passer ce palier.
Et
donc,
il marquait déjà beaucoup de buts effectivement à Seraing avant d'arriver à Metz à le faire également. Ouais. Justement, puisque tu parles de Seraing, Grégory, tu as eu cette première expérience de coach principal à Seraing en Belgique qui s'est arrêtée en début d'année. Tu as dit, je l'ai lu, que ton rêve c'était d'entraîner un jour ton club de cœur, donc le FC Metz. Est-ce que dès la saison prochaine, puisqu'on sait qu'il y aura du changement, quoi qu'il arrive ce soir, a priori, Laszlo Bologni ne restera pas l'entraîneur, hein, même si ça reste évidemment à être officialisé. Mais est-ce que dès la saison prochaine, tu pourrais être intéressé, quel que soit le résultat, pour prendre en main cette équipe messine?
Moi, je suis parisien à la base, mais je suis arrivé à Metz en 95, j'avais 16 ans.
Ah bon, on a le même parcours.
Et j'ai eu mes enfants à Metz, j'ai eu tout ça à Metz.
Ouais. J'ai fait pareil, moi, je suis arrivé à 16 ans à Metz, voilà, comme toi, de Paris.
Ah, d'accord, voilà. Ouais, bon, c'est cool, c'est impeccable. Mais le truc, c'est que si on pose la question, est-ce que ça peut t'intéresser? Mais je dirais toujours oui. Même Metz, au plus profond du classement ou n'importe quelle division, je serais toujours intéressé parce qu'ici, c'est un club que j'aime et c'est des gens que j'aime. Et là, juste avant, justement, il y a des gens qui m'ont interpellé parce que je suis derrière la tribune. Là, je me cache derrière un camion parce que sinon, ça va faire un peu de bruit. Et qui m'ont dit, ah, c'est toi le futur coach. Mais malheureusement, je ne pense pas que ça soit dans les têtes de Bernard Seraing et des gens autour de lui. Donc, malheureusement, je ne pense pas que ça arrive, mais je dis bien malheureusement parce que moi, j'aimerais réellement.
Tu serais après, candidat, tu serais un candidat officiel.
N'importe quand, je suis un candidat. Okay. N'importe quand, c'est FCMS. Oui, bien sûr, je suis un candidat. J'ai envoyé à Bernard Seraing, il y a un moment de ça, mon projet de jeu idéal, ce que moi, je ferais éventuellement. Et puis voilà, maintenant, Bernard Seraing a les cartes en main, mais s'il me reçoit. Sincèrement, je ne suis vraiment pas persuadé que ça soit d'actualité, d'accord. En tout cas de leur côté à eux.
Justement, comme on est avec Coach Courbis, tu sais, Grégory, tu peux faire un ticket avec Coach en direct. Voilà, vous prenez le FCMS.
En ce qui me concerne, c'est trop tard.
Tu peux lui donner des conseils, Coach, à Grégory. Hein.
Mais disons qu'il y avait une époque où j'avais eu une discussion, et d'ailleurs, c'est une personne que j'adore, c'est Carlo Molinari. Et donc, qui d'ailleurs est toujours là, et ça a été quand même pour moi un gars que je regardais avec beaucoup d'honneur et beaucoup de fierté. Donc après, ça n'avait pas pu se faire, mais bon, c'était déjà très très bien pour moi de pouvoir en discuter. Et là, pour en ce qui concerne Miko Tadze, qu'on vient de parler, ce qu'il faudrait aussi penser pour ce joueur, c'est un petit peu ce qu'il peut avoir dans son entourage. Hein, parce que déjà, arriver à faire ce qu'il fait en étant quand même pas dans une équipe où il y a vraiment des copains à côté, complémentaires, voire même un, deux, et pourquoi pas trois, et le mettre dans une situation de buteur et de finisseur, là, sincèrement, il va falloir se pencher là-dessus dans les semaines à venir, mais déjà à 17h. Parce que bon, faut pas s'entendre plus qu'il prenne le ballon, qu'il dribble 5 joueurs et qu'il aille marquer.
Il est capable, hein, Grégory. Ouais.
Bah, le coach a totalement raison. Mais malgré tout, là où il a un petit peu tort, c'est qu'il l'a déjà fait et qu'il le fait depuis 6 mois tout seul. Et,
oui.
Et j'ai pas peur de le dire parce que c'est vrai, autour de lui, mis à part Ablaye Jallo, quand il joue, mais il est des fois blessé, des fois le coach ne le fait pas jouer. Mais mis à part Ablaye Jallo, il n'y a personne qui est capable de jouer avec Georges. Et quand on regarde les buts qu'il a mis, c'est souvent tout seul. Mmh. On enlève les pénalties, mais sûr. Sinon le reste il a fait quand même des grands miracles.
Il se débrouille à faire un poteau.
Ouais. N'étant pas très bon en plus, ouais. En n'étant pas meilleur de sa forme ce jour-là, il arrive quand même à faire un poteau. Donc, mais c'est voilà, c'est ça. Là-dessus, moi, on a eu des discussions ici avec la télé quand je suis passé à la télé ici, où j'ai sans cesse répété qu'il fallait quand même des joueurs de football quand on joue au football et pas que des coureurs à pied. Malheureusement, je crois qu'à Metz, il y a beaucoup de coureurs à pied et que les joueurs de football, ils sont sur le banc. Pour certains. Ouais. Et j'ai hâte vraiment de voir, parce qu'on parle de Georges un peu partout l'année prochaine, donc à Monaco entre autres, mais j'ai hâte de voir Georges Miko Tadze avec des gars à côté de lui qui sont peut-être même plus forts que lui. Ouais. Et là ouais. je pense que ça peut faire très mal.
Merci en tout cas Grégory, je pense que ton constat est partagé par pas mal de supporters messins qui vont suivre ce match tout à l'heure. Bon match à toi, à Saint-Symphorien.
En tout cas, Grégory, ce que je te souhaite, c'est que tu puisses faire rapidement une carrière d'entraîneur comme tu as pu faire celle de joueur, qui était plus que correcte. Et ouais. Donc, je me rappelle même, tu as fait ça un petit peu dans l'obscurité en ce qui concerne les médias, ouais. Mais bon, tu faisais partie des joueurs très intéressants pour un entraîneur.
Voilà.
Le match gentil, coach. Je partage tout à fait l'avis de sur président Molinari. C'est une personne extraordinaire qui mérite d'être signalée.
Et ben voilà, c'est passé en direct sur RMC. Merci beaucoup Grégory. Bon match que l'on suivra en direct évidemment sur RMC. Merci beaucoup d'être passé sur l'antenne d'RMC dans l'Intégral Foot. On revient bien sûr dans un instant dans l'Intégral Foot. Je vous dis au passage que Carlos Alcaraz mène désormais 2-7-0 face à Auger Aliassime. Assez tranquille l'Espagnol, alors que Tsitsipas mène toujours 2-7-1 contre Arnaldi. 4-1 dans la quatrième manche. On revient à Roland-Garros, bien sûr, également pour suivre nos directs. Et Sylvain Castendutch, autre capitaine emblématique de Metz, sera avec nous sur RMC. À tout de suite.
RMC Intégral Foot. RMC Intégral Foot.
François Pinet.
16h06 sur RMC, vous écoutez l'Intégral Foot, Mario Hidalgo, coach Courbis. Dans un instant, on va parler de Metz-Saint-Etienne, on sera avec Sylvain Castendutch. Mais d'abord, le tennis avec la qualification pour l'écart à l'instant, Eric Salio. De Tsitsipas, le grec.
Oui, c'est le premier qualifié pour l'écart, Stefanos Tsitsipas, qui s'est fait peur face à Matteo Arnaldi, mais voilà, 3-6, 7-6, 6-2, 6-2, le grec qui va attendre le résultat du central pour savoir contre qui il va jouer mardi. Il y a quand même de fortes chances que ce soit Carlos Alcaraz, puisque l'Espagnol mène 6-3, 6-3, 2-0 face à Félix Auger-Aliassime.
Merci
beaucoup, Eric. Le meilleur week-end sur RMC avec La Centrale. Achetez et vendez en un coup gagnant votre véhicule d'occasion. La Centrale, vous connaissez quelqu'un qui s'y connaît.
Avant de parler de Metz-Saint-Etienne, direction Chantilly pour le quintet du jour, c'est avec Mathieu Zaccanini. Salut Mathieu.
Salut François, salut à tous. On se retrouve pour ce superbe groupe 1 qui est le prix du Jockey Club. C'est une des plus belles épreuves qui est réservée aux mâles âgés de 3 ans, aux galopeurs. C'est une épreuve qui dispute sur la distance des 2100 mètres. Ils vont bientôt partir et il est important de le noter. Le numéro 1, Wadan, a été déclaré non partant avant la course. Et pour l'instant, le favori de cette compétition, c'est toujours le numéro 13, un Fast Tracker. Également très en vue, l'un des représentants d'André Fable, le numéro 15, Sozi, qui avait très bien gagné en dernier lieu. En tout cas, c'est une épreuve assez ouverte. Ce sont d'excellents chevaux âgés de 3 ans. C'est sur sur 2100 mètres que cette compétition se dispute et ça va bientôt partir, François. C'est une épreuve avec une allocation exceptionnelle d'1 500 000 à se répartir entre les 5 représentants qui feront l'arrivée de cette compétition. Et on devrait plus trop tarder dans cette compétition. Le terrain est déclaré collant et les voilà partis, hein, dans cette compétition qui va se disputer donc sur la distance des 2100 mètres avec le grand favori, le numéro 13, un Fast Tracker qui reste sur 3 succès consécutifs, qui a remporté notamment l'épreuve de référence et il vient notamment de prendre un excellent début de parcours. Il s'installe presque en tête le long de la corde. On peut tout de suite noter la présence du numéro 10, Ghost Fighter. Mais pour l'instant, c'est le favori, hein, qui assume son rang. Le numéro 13, Fast Tracker, qui est en tête. Derrière lui, on peut noter la présence de plusieurs concurrents. C'est le cas notamment du numéro 2, Ramadan, qui est à l'extérieur. Encore plus à l'extérieur sur une quatrième ligne, il y a le numéro 11, Diego Velasquez. À l'arrière-garde, on peut noter la présence du numéro 6, hein, qui patiente Mondoman, ainsi que le numéro 12, Arrow Eagle. Pour l'instant, ça se passe bien pour le favori, qui semble un petit peu tendu, hein, qui fait un petit peu de train, ce numéro 13, Fast Tracker. Dans son dos, on peut noter toujours la présence et bénéficiant d'un beau parcours, le numéro 10, hein, qui est Ghost Fighter. À l'extérieur de ses chevaux, il y a toujours le numéro 2, Ramadan, ainsi que le numéro 11, Diego Velasquez. Au milieu de peloton, on peut noter la présence du numéro 8, Luke de Vega, ainsi que l'un des chevaux en vue, le numéro 9, Alcantor. Ça se passe bien pour l'instant pour ce favori, hein, qui assume son rang et qui est toujours devant. À son extérieur, toujours le numéro 2, Ramadan. Sur une deuxième ligne, le numéro 10, Ghost Fighter. À l'extérieur, il y a toujours le numéro 11, Diego Velasquez, bénéficiant d'un bon parcours. Entre ces deux chevaux, il y a le numéro 8, Luke de Vega. Ensuite, on peut noter la présence du numéro 15, un sosie, qui est le long de la corde et qui attend gentiment derrière le dos des leaders. On va rentrer désormais dans le tournant final. Il reste un peu moins d'un kilomètre à parcourir avec toujours ce numéro 13, Fast Tracker. À l'extérieur, est toujours présent, toujours compétitif pour les premières places. C'est le numéro 2, un Ramadan. Qui semble encore aller assez bien. À l'extérieur, il y a une attaque désormais du numéro 11, Diego Velasquez, mais pour l'instant, le numéro 13, un Fast Tracker, qui semble repartir sous les différentes attaques, notamment celle du numéro 2, Ramadan. Il reste un peu moins de 400 mètres à parcourir avec toujours ce numéro 13, un Fast Tracker, qui tente de contrer les offensives, mais finalement, il y a une attaque du numéro 8, Luke de Vega, qui a bénéficié d'un beau parcours. Luke de Vega, qui est l'un des favoris en vue et qui semble se détacher irrésistiblement, même s'il y a une très bonne fin de course du numéro 15, Sosie. Mais pour l'instant, il n'y a pas de détail. C'est le numéro 8, Luke de Vega, qui prend le meilleur. Il y a une belle fin de course tout à l'extérieur, c'est celle du numéro 4, First Look, troisième place pour le numéro 15, Sosie. On va regarder pour la quatrième et cinquième place. En tout cas, très beau succès de ce numéro 8, Luke de Vega, hein, qui a bénéficié d'un bon parcours dans le dos des animateurs et qui est reparti, hein, de très belle manière dans la phase finale. Il s'est décalé à mi-ligne droite et il n'a fait qu'une bouchée de ses adversaires. En tout cas, très beau succès de ce numéro 8, Luke de Vega. C'était l'entraînement de Carlos et Yann Lerner, Ronan Thomas qui était le jockey. Très beau succès de ce numéro 8, hein, qui a gagné de plusieurs longueurs en deuxième position. C'est ce qu'on disait, hein. Il y a une très belle fin de course du numéro 4, First Look, qui va prendre le premier accessit aux dépens de l'un des favoris, le numéro 15, Sosie. Quatrième place le long de la corde pour l'un des animateurs, le numéro 10, Ghost Fighter. Enfin, c'est le numéro 6, hein, Mondoman, qui va se classer 5e. C'est un gros outsider à 36 contre 1, ce qui nous donne une arrivée provisoire de cette épreuve disputée aujourd'hui sur l'hipporome de Chantilly. C'était le prix du Jockey Club, 8, 4, 15, 10 et 6. Et je reviendrai à 17h pour vous donner l'arrivée, les rapports définitifs de cette compétition. À tout à l'heure.
Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Le rendez-vous foot de l'après-midi approche, 17h sur RMC. Ne manquez pas Metz-Saint-Etienne, barrage d'accession. Retour, il y avait eu 2-1 pour les Verts au match aller. Dans un instant, on aura les compositions des deux équipes. Mais d'abord, on va accueillir Sylvain Castendutch. Il a joué 524 matchs avec le FC Metz, capitaine historique lors de la plus belle période du club à la fin des années 90. Mais aussi plus de 100 matchs avec Saint-Etienne. Bonjour Sylvain.
Bonjour à tous.
On est avec Marion Hidalgo.
Oui, bonjour.
Avec Roland Courbis.
Bonjour. Salut Sylvain.
Bonjour Roland. Content.
Vous étiez à Geoffroy Guichard, Sylvain, jeudi dernier, pour assister à la victoire logique des Verts de Buzyn. Et vous allez être à Saint-Symphorien dans quelques heures pour ce match. On a l'impression que la dynamique est largement favorable à Saint-Etienne pour retrouver la Ligue 1. Est-ce que c'est ce que vous pensez après avoir vu le match aller?
Oui, complètement. C'est vrai que les Stéphanois ont joué, eux, un vrai match de barrage, alors que les Messins, j'ai l'impression qu'ils étaient en représentation là ce soir-là. C'est vrai que les Stéphanois ont d'ailleurs fini avec des crampes et les Messins pas du tout, ce qui est quand même assez significatif et qui illustre bien la débauche d'énergie d'un côté et puis une espèce de d'inertie ou d'immobilisme de l'autre. Donc oui, non, clairement la dynamique est en faveur des Stéphanois. Malgré tout, il y a un deuxième match et on va certainement en reparler, mais la fatigue, notamment du côté stéphanois, peut peser.
Oui, même si on a vu évidemment l'apport du public, et vous qui avez joué à Saint-Étienne, je le disais, plus de 100 matchs avec les Verts, vous n'avez pas dû être surpris de tout cet engouement, que ce soit pendant la rencontre et puis après le match aussi, ça doit porter tout ça, ce public-là, les Stéphanois vers la Ligue 1.
Ah oui, c'était fabuleux. Ça faisait quelques temps que j'avais pas assisté à un match à Geoffroy Guichard, et c'est vrai que c'est encore plus fort que quand j'y jouais, parce que à l'époque le stade n'était pas complètement fermé. Là maintenant, sous cette configuration-là, c'est un chaudron, enfin encore pur, encore pire que ce que ça l'était à l'époque. Et donc c'est vrai que l'ambiance a été exceptionnelle avant le match, pendant et puis après. Donc j'ai vraiment été conforté sur le fait que c'est un des stades les plus chauds de France. Mmh.
Vous avez parlé justement de peut-être un match de représentation pour le FC Metz. Il y a certains joueurs d'ailleurs comme Mathieu Hudol, le capitaine, qui a dit après le match qu'il y avait eu un manque d'envie. Ça n'a pas plu du tout à Laszlo Bologny, l'entraîneur messin, qui a critiqué son capitaine ensuite.
Il ne s'exprime pas bien.
Ouais, il a quand même dit « Ah bon, il a dit ça, donc il faut lui retirer son contrat, etc. »
Donc, si tu veux...
Il y a une erreur de com' quand même.
Je ne vais pas traduire en français quelqu'un qui parle français. Mais quand il dit manque d'envie, c'est manque de combativité, manque d'agressivité, pas manque d'envie. Il n'y a pas un joueur messin qui n'a pas envie de rester en première division.
Mais la réponse de Bologny, elle n'est pas géniale avant un match retour très important.
Oui aussi. Donc j'aurais préféré, sans vous citer un exemple, qu'il réponde justement... Il s'est mal exprimé, tout simplement. Il voulait dire qu'on aurait pu être un peu plus agressif. Ce qui, en plus de ça, est tout simplement vrai.
Eh bien, ça en vient à ma question, finalement, pour vous. Est-ce que, justement, un entraîneur comme ça, un petit peu à l'ancienne, qui s'exprime de cette manière à la presse, est-ce que ce n'est pas dangereux, entre guillemets, pour Metz?
Pour avoir suivi la suite de ces événements-là, je pense que le soufflet est retombé. Hein. Je crois qu'ils se sont parlé, tout de suite après et le lendemain, puisque les Verts ont en effet tenté d'amplifier un petit peu la polémique, mais surtout du côté messin, en fait, ils se sont mis au vert depuis le retour, et donc ça a été l'occasion de discussion et puis de remise à niveau mental, parce que ce qui leur a manqué aussi, comme le souligne Roland, je pense que c'est pas l'envie, mais c'est d'arriver à traduire sur le terrain cette espèce d'agressivité et puis de détermination que les Stéphanois ont bien mis sur le carré vert et que les Messins ont laissé au vestiaire. Donc je pense que ces quelques jours-là qui ont suivi le match jusqu'à aujourd'hui, je pense que le principal objectif de Bologny et des Messins, c'était justement de trouver les moyens, à la fois psychologiques et puis de récupération, qui vont leur permettre aujourd'hui, enfin, de faire un vrai match de barrage, ce qui n'a pas été le cas jeudi.
Ouais, mais moi, j'insisterai sur, parce qu'on en parle depuis ce matin, c'est quand même passionnant, on essaie, c'est pas facile de se mettre à la place un petit peu des uns et des autres. Je crois que quand on parle de dynamique de Saint-Étienne dans le chaudron, ben évidemment que je suis d'accord, je ne veux pas toujours être l'emmerdeur, là. Mais la dynamique de Saint-Étienne à l'extérieur, quand je vois qu'on mène 2-0 à Guingamp et qu'on est en première division, si on gagne et qu'on fait 2-2, ouais. Quand je vois qu'après on se retrouve en train de perdre à Ajaccio 2-0, quand... On va chez le dernier qui a déjà plus rien à cirer et qu'on perd, alors que si on gagne là, Angers n'avait pas réussi à gagner celui. Tu serais déjà en première division sans jouer les barrages. Ben maintenant, on va voir un Saint-Étienne hors du chaudron. Et peut-être qu'on va être surpris que les Messins, il n'y a peut-être pas un chaudron, mais il y a des gens qui ont envie de rester en première division. Et je crois qu'il y aura une énorme ambiance. Oui. Et si on s'attend à voir, autant les déclarations maladroites que des Messins comme au match aller, ben je pense qu'on se trompe. Même s'ils seront peut-être désordonnés, ça sera... des Messins qui ne seront pas pour moi un cadeau pour les Stéphanois.
Quand on parlait de dynamique, effectivement, je parlais aussi de la dynamique négative des Messins. 5 défaites de suite pour Metz. Ouais. Pour vous, Sylvain Castendage, qui connaissait bien ce club, qu'est-ce qui ferait aujourd'hui penser que le FC Metz peut encore se maintenir en Ligue 1?
Je réponds à sa place, c'est que l'adversaire de ce soir, c'est un adversaire de deuxième division. Et les 5 défaites, c'était contre des adversaires de première division.
Sylvain?
Bonne réponse, Roland. J'ai pas grand chose à rajouter. Si ce n'est que,
merci, Sylvain.
Si ce n'est que, Voilà, si ce n'est que il y aura un chaudron Messin quand même. Hein.
Mais oui.
Donc au Messin, en effet, de bien rentrer dans le match, ce qu'ils n'ont pas fait à Saint-Étienne pour justement entraîner l'adhésion collective et puis le fait que le public s'enflamme. Le début de match va être déterminant. C'est vrai que je pense que tout le monde va scruter le comportement des Messins, voir s'ils vont rentrer comme des morts de faim, s'ils vont pouvoir traduire justement cette envie, parce qu'on ne peut pas concevoir qu'il n'y en ait pas, évidemment. Le but, c'est de la traduire le mieux possible d'entrée de match, et si jamais, bah, comme le dit Roland, Metz montre que c'est l'équipe de première division contre l'équipe de deuxième division, le rapport de force peut facilement et rapidement s'inverser et les Messins peuvent revenir très vite dans la partie. J'ajoute qu'il y a quand même un élément qui n'a pas brillé à Saint-Étienne, mais je pense que Georges Mikotadze, si ce soir à Saint-Symphorien, avec ses repères, avec ce qu'il a fait depuis qu'il est revenu de l'Ajax au mois de janvier, si on a un Georges un peu servi et ouais, plus adroit qu'il ne l'a été à Geoffroy Guichard, ça peut faire quand même très mal.
C'est ça aussi.
C'est le un peu servi qui est important. Il n'a pas du tout été servi à Geoffroy Guichard et à Saint-Étienne.
Voilà, bien sûr. Ne lui demandons pas des miracles, mais par contre.
Il en a fait déjà.
Là aussi, moi, je regarde, je me mets un petit peu justement là, à la place des Messins. Il y a un but de retard.
Oui, oui, bien sûr.
Donc, et avec un but, tu vas tout simplement à la prolongation. Oui. Et à la prolongation, dans quel état ils seront, les Stéphanois, avec ce troisième match en 6 jours et demi.
Et puis, il y a une question. Allez-y, Sylvain, si vous voulez répondre à coach.
Là-dessus. Oui, non, je voulais aussi rebondir sur ce que disait Roland sur la fragilité des Stéphanois à l'extérieur. Elle s'est concrétisée sur cette fin de championnat. Elle s'est pratiquement concrétisée tout au long de la saison, puisque c'est vrai que le principal matelas de points acquis par les Verts, c'était à Geoffroy Guichard. C'est vrai que là, ils vont se retrouver avec quand même dans la tête ces doutes concernant leur efficacité et leur comportement à l'extérieur. Et encore une fois, si les Messins arrivent à bien rentrer dans le match, je pense que ces doutes-là vont très vite apparaître et aux Messins d'en profiter s'ils rentrent bien dans la partie.
Et c'est d'ailleurs pour ça aussi que dès qu'on connaît un petit peu le calendrier et qu'on sait que le match première division contre deuxième division se joue en deuxième. Chez le.
Oui, c'est pour favoriser le Ligue 1.
Il y a quand même cet avantage. Ouais. Match retour dans le chaudron. Et je ne parlerai peut-être pas de la même façon.
Alors, comme vous connaissez bien le Exactement. Football club de Metz, Sylvain, vous avez connu les grandes heures, je le disais, du club. Qu'est-ce qui, pour vous, justement, fait que ce FC Metz n'arrive pas à s'installer durablement en Ligue 1? Donc on en rigole en disant ce sont les spécialistes de l'ascenseur. Attention à ce que l'ascenseur à un moment donné ne tombe pas en panne, hein, parce qu'il faut remonter derrière. Mais qu'est-ce qui fait que le FC Metz n'arrive pas à s'installer durablement?
Bon, il y a beaucoup d'explications, mais la principale, c'est que le football a changé. Le business maintenant a pris complètement le dessus. À l'époque, la différence entre les plus grands clubs et puis le ventre mou de la première division, les différences financières, économiques, même de standing, de statut, étaient quand même moins importantes. Aujourd'hui, le fossé se creuse. Et puis, Vincent Labrune à la Ligue fait en sorte que ce fossé se creuse encore un peu plus, puisque le projet, c'est de favoriser les clubs européens et les meilleurs clubs français. J'ai assisté moi à beaucoup de réunions justement dans les institutions qui faisaient que ça allait dans cette direction. Donc pour un club comme le FC Metz qui en effet n'a qu'un propriétaire local, même s'il est très à l'aise et même si il donne beaucoup de sa personne et de ses moyens restent limités, bien limités, et dans un marché de joueurs mondial aujourd'hui, le FC Metz n'arrive plus à attirer de bons joueurs, en tout cas moins qu'avant, et puis ne s'appuie peut-être plus aujourd'hui non plus sur une formation et sur un développement de jeunes joueurs comme Carlo Molinari le faisait il y a 20 ou 30 ans. Mais encore une fois, on peut pas jeter la pierre à Bernard Serin, au contraire, il faut louer son engagement personnel, mais c'est surtout les règles générales aujourd'hui qui font que les joueurs sont dans un marché mondial et sont souvent de passage. Donc quand même un tout petit peu moins concerné viscéralement par l'avenir du club dans lequel ils jouent à court terme, quoi. Et on ne peut pas leur en vouloir parce que c'est les règles qui leur proposent ça.
Sylvain Castaigne, Dutch avec nous sur RMC. Marion Hidalgo, une question peut-être?
Oui, il a tort Vincent Labrune de faire cette politique-là?
Non, pas du tout, parce que en fait, la vitrine est évidemment essentielle. Aujourd'hui, encore une fois, il faut beaucoup de moyens et nos clubs européens ont besoin de moyens pour pouvoir rivaliser avec les clubs anglais, allemands, espagnols, italiens. Donc, c'est un peu une course à l'échalote et une course aux moyens. Donc, il n'y a pas d'autre solution. On peut juste regretter cette évolution et cet écart qui se creuse, sachant que si, par exemple, le prochain appel d'offres des droits télé amener une enveloppe confortable, il faudrait juste veiller à ce que l'écart entre les clubs les mieux dotés et les clubs les moins bien dotés en première division ne se creuse pas. Il faut garder quand même un équilibre parce qu'on a quand même intérêt à ce qu'on garde un championnat de France de qualité et qu'il n'y ait pas que quelques locomotives qui se baladent.
Pour avoir certains repères, le budget de Metz au classement, c'est le combien ?
Oh, ça doit être dans les Sylvain, peut-être que.
Oui, enfin, je sais pas exactement, mais en tout cas, aux alentours de la 15e
place, voilà, oui, c'est ça.
15e, 16e place. Ouais.
Donc, ils sont à leur place.
Bien sûr, mais bon, il y a des clubs qui performent aussi parce qu'ils ont des bonnes idées. Bon, là,
on
peut parler de Brest cette année, ça peut être exceptionnel peut-être. Mais
être meilleur et dépenser tes sous un peu mieux dans une année. L'année d'après, ça sera peut-être le contraire, mais là, pour le moment. Les Messins, bon,
ouais. 16e budget, évidemment, 45 millions d'euros.
C'est pas facile, 45 millions.
Quand on voit ce que fait Brest, ça fait rêver. Mais des Brest, il y en a un tous les.
Oui, oui. Il faut voir la suite aussi, évidemment, pour Brest, voilà. Parce qu'après, faut pouvoir continuer et que ça dure.
Non, et puis je crois que c'est. Enfin, c'est pas tellement un problème d'ailleurs que Metz fasse l'ascenseur. Je pense que contrairement à quand j'y jouais par exemple, où on avait cette peur viscérale d'être les premiers à faire descendre le FC Metz en deuxième division, puisqu'on avait un record de longévité à l'époque avec Sochaux et Nantes, avant que le club ne descende au début des années 2000. C'est vrai que notamment les joueurs du CRU, on se battait viscéralement pour qu'on soit pas les premiers à faire descendre le club. Donc on y a réussi, mais voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui ça a changé. C'est vrai qu'aujourd'hui le FC Metz, au vu de ses moyens, et encore une fois, louons l'engagement de Bernard Serin, parce que sans lui, je pense que le club n'en serait même pas là aujourd'hui. Donc il y a cet engagement personnel et cette fortune personnelle qui met en partie à disposition du club. Et je pense que la vocation du FC Metz, c'est voilà, de naviguer entre le ventre mou de la première division et puis les plus belles places de la deuxième division. D'ailleurs, la belle saison du FC Metz l'année dernière en Ligue 2 a créé un engouement exceptionnel sur la moitié de saison, sur la deuxième moitié de saison. On se serait cru en première division avec un engouement, un stade plein. Donc, je pense qu'il faut dédramatiser le fait qu'à un moment donné, on soit en première ou en deuxième division. Je pense que ce qui est important, c'est en effet d'avoir un projet, d'avoir un plan, de pouvoir proposer, d'être un pôle attractif dans sa région et pour sa ville. Et je pense qu'à partir de là, après, on est en fonction, comme le dit Roland, de la réussite d'un noyau de joueurs, d'une bonne recrue qui va arriver, etc., d'un bon entraîneur qui va trouver le projet. Je pense qu'on pourra avoir vocation à être à faire quelques temps en première division, mais n'ayons pas honte de redescendre en deuxième division, d'autant plus que le plan de la Brune, qui était en effet de favoriser les locomotives financièrement en première division, c'était justement avec une réduction à 18 clubs en première division de muscler la Ligue 2.
Ouais.
Donc, dans ce cadre-là, je pense qu'il n'y a pas de honte pour une ville comme Metz à être en deuxième division.
Bon, je ne sais pas si tous les supporters seront d'accord, en tout cas, Sylvain, il y a une question, et c'est la question qui tue, vous avez joué dans les deux clubs, est-ce que vous êtes tiraillé ou votre camp, ça y est, vous l'avez défini.
Non, j'ai défini mon camp parce que je vis à
le
Metz.
Le cœur grenat.
Oui, je vis à Metz, j'y ai passé 15 ans sur mes 20 ans de carrière, ouais. Donc évidemment que la proportion allait en faveur des Messins. Donc j'aimerais vivement, évidemment, que les Messins soient au rendez-vous tout à l'heure. Mais ouais. En même temps, là, je suis finalement plus à l'aise, puisque si c'est un autre adversaire et puis que ça ne fonctionnait pas pour Metz, je serais extrêmement, extrêmement déçu. Là, la déception sera un tout petit peu moindre, parce que c'est les Stéphanois qui en bénéficieront.
Alors, ouais. Vous allez d'ailleurs bientôt à Metz pouvoir porter la flamme, vous ferez partie des porteurs de la flamme, Sylvain Castendel, le 27 juin prochain, lors du passage de la flamme à Metz. Un des porteurs de la flamme, bon, ça doit faire quelque chose, évidemment, j'imagine.
C'est la ville qui m'a choisi, donc évidemment, c'est une reconnaissance, c'est une fierté, ça va être émouvant, je pense. Donc ça sera un bon moment et j'ai hâte.
Ça sera le 27 juin prochain. En attendant, il y a un match à partir de 17h sur RMC, Metz face à Saint-Etienne. On va continuer d'en parler, bien sûr. Merci beaucoup, Sylvain, d'être passé sur RMC.
Avec plaisir.
Merci.
Salut,
merci.
Sylvain, au plaisir.
À bientôt. Merci. Au revoir à tous. Au revoir, Roland. Au revoir.
Ça y est, c'est le moment. Le moment de vous inscrire pour tenter de remporter la totale du coffre Euro 2024. Vidéoprojecteur Samsung, écran de projection en plus, barbecue électrique et fumoir Ninja, fauteuil FFF de la marque Konix, machine à glaçons, la mascotte de l'Euro 2024.
J'adore.
Comment elle s'appelle cette mascotte, vous le savez, de l'Euro 2024? Albert.
Très bien.
Voilà, c'est une sorte de petit ours, il me semble.
Bah oui, c'est disons que...
princier. Voilà, donc si vous voulez gagner ça, tu peux jouer Marion, puisque visiblement ça t'intéresse.
J'adore.
Il faut envoyer coffre au 732-16, coffre au 732-16. Dès maintenant, vous avez 5 minutes pour jouer. Donc à 16h32, on arrête. Allez-y dès maintenant, envoyez coffre au 732-16, bonne chance à tous. Dans un instant, on revient, on continue de parler de Metz-Saint-Etienne avec les compositions d'équipe. Et puis, bien sûr, Captain Larquet qui viendra nous voir. On va faire le point aussi sur Roland-Garros et sur le critérium du Dauphiné. Nos deux directs du jour. Restez avec nous sur RMC, à tout de suite.
RMC, Intégral Foot.
François Pinet.
Mario Hidalgo, coach Courbis, l'intégral foot qui va se poursuivre à 17h avec Metz-Saint-Etienne, barrage retour d'accession à la Ligue 1, dans un instant les compositions d'équipe. Mais d'abord Roland-Garros, c'est terminé, victoire et qualification de Carlos Alcaraz, Eric Salio et Flo Serra.
Oui, victoire aisée de Carlos Alcaraz, 6-3, 6-3, 6-1, 2h20 certes, mais il n'y a jamais eu de suspense, donc l'Espagnol va retrouver dans deux jours Stefanos Tsitsipas. C'est une fantastique affiche sur le papier, mais bon, quand on étudie les face-à-face, Flo, il y a 5-0 pour Alcaraz, ouais. Et notamment le dernier match, c'était déjà un quart l'an passé à Roland.
Oui, c'est vrai que c'est une belle affiche, mais il le disait, hein, on écoutait tout à l'heure Stefanos Tsitsipas, il disait, bon, il aime bien me jouer, mais plus que ça, je trouve que le niveau de jeu de Carlos Alcaraz est relativement intéressant. Et même si on a eu un Félix qui semblait touché à l'intérieur de la cuisse et qui a faibli physiquement, je trouve l'Espagnol particulièrement affûté cette année. Son bras a l'air d'aller particulièrement bien. Mais il va falloir un grand Stefanos Tsitsipas pour venir le titiller, parce que Stefanos a encore cédé un set. Mais j'ai trouvé que la réaction du Grec avait été aussi particulièrement intéressante dans ce match contre Arnaldi aujourd'hui. Il s'en est pas mal sorti, Eric.
Si vous avez entendu des petits sifflets, c'est parce que Carlos, ouais, Alcaraz s'est mis torse nu.
Et bien affûté.
Voilà. C'est pas mal. La tablette de chocolat. Le programme est... Non, il y a une info un peu récente. Il est 16h30. Le programme du cours Châtrier est d'ores et déjà terminé. Je pense qu'ils vont mettre un double.
Très bien. Merci, Eric. Merci, Flo.
Le meilleur du tennis sur RMC avec La Centrale. Achetez et vendez en un coup gagnant votre véhicule d'occasion. La Centrale, vous connaissez quelqu'un qui s'y connaît.
Et dans le programme, il y aura évidemment Corentin Moutet qu'on attend face à Yannick Sinner. On viendra à Roland-Garros tout au long de l'après-midi et de la soirée. Le critérium du Dauphiné, où on en est dans l'Allier, Arnaud Souk, pour commenter cette première étape.
Il n'y a plus d'échappée. Les deux hommes de tête ont été repris, parmi lesquels le Français Mathis Lebert. 12 km 200 encore à parcourir. Peloton groupé sur les routes, accidenté de l'Allier. Une arrivée à Saint-Pourçain sur Sioule dans, allez, on va dire une petite quinzaine de minutes désormais. Et a priori, une victoire qui va se disputer aujourd'hui au sprint. Et qui de mieux en la matière que deux spécialistes de l'exercice, Mats Pedersen et Sam Bennett, pour se disputer la victoire. Eh bien, on verra ça dans 12 km désormais.
Et on suivra ça avec toi, bien évidemment. Avant, bien sûr, de retrouver Captain Larquet pour parler de ce Metz-Saint-Etienne très attendu à 17h à suivre sur RMC, on va retrouver nos commentateurs pour ce match, Edgar Grolot et Patrick Muller. Salut les gars.
Salut François, salut à toutes et à tous.
Salut François, salut tout le monde.
Avec évidemment cette information qui intéresse tous les supporters, les compositions des deux équipes.
Alors on commence par le FC Metz. Allons-y avec Alexandre Oukidja dans les buts. En défense, Udol, le capitaine à gauche. Sadi Boussané, Traoré en charnière et Kouaou à droite et non pas Maxime Collin. Au milieu de terrain, trois éléments, ce n'est pas une surprise. En revanche, il y a une petite option un petit peu plus offensive, c'est-à-dire qu'on aura à la fois Endoram Camara et Ablaye Diallo qui fait son retour. On aurait pu attendre Danley Jean-Jacques, mais ce sera bien Ablaye Diallo. À droite, Lam Kelze et pas Vanden Kerkhoff. Diallo, Papa Diallo à gauche et l'inévitable, bien sûr, Georges Mikotadze à la pointe de l'attaque.
Ça, c'était pour le FC Metz. Côté visiteur, l'AS Saint-Etienne qui a remporté, on le rappelle, le match aller de Buzyn à Geoffroy Guichard. Aucune surprise vraiment dans le 11 de départ. Gauthier Larsonneur dans les cages, la défense de la gauche vers la droite. Petro, Nadé, Batoubin Sika et Denis Appia, c'était la seule interrogation. Est-ce qu'on allait avoir Appia ou Masson? C'est finalement Appia un petit peu plus haut au milieu de terrain. Tardieu, Chambeau, Mouefek et les trois devant. Cafaro à gauche, Cardona à droite et Sissoko en pointe de l'attaque stéphanoise.
Une réaction sur ses compos?
Ben disons, la réaction de Metz, chacun ses goûts, mais je préfère l'équipe de ce soir de Metz que celle de Saint-Etienne, et notamment le milieu. Donc maintenant, les Stéphanois, pour moi, ben je la trouve sympa, je la trouve quand même cohérente, cette équipe, avec notamment un trio offensif de très bon niveau. Ce point d'interrogation que j'ai, je le répète, dans quel état ils seront au niveau physique dans la deuxième partie du match, mais c'est un grand point d'interrogation pour moi, puisque ces 2-3 crampes que j'ai pu avoir sur certains joueurs lors du premier match m'inquiètent un peu quand même.
Ok, avec Edgar et Patrick, un petit mot d'ambiance quand même les gars, elle promet d'être chaude évidemment comme au match aller, mais visiblement il y a eu des soucis dans les rues de Metz aujourd'hui.
Exactement, il y a eu quelques soucis et ça continue dans le stade, hein, puisque tout à l'heure on a vu déjà le parquage stéphanois et ceux les supporters de Metz qui commencent à se jeter des petits noms d'oiseaux, se jeter même je crois quelques fumigènes tout à l'heure. Patrick, qu'est-ce que tu as vu toi dans les rues autour du stade avant le match?
Oui, un petit peu d'éléments de tension effectivement dans la journée entre quelques Messins et quelques Stéphanois. On parle d'un affrontement entre 100 supporters Messins, 100 supporters Stéphanois. Il serait 8500 quand même, hein, les supporters des Verts ici à Saint-Symphorien. Et c'est un match à guichet fermé, 27 000 personnes. Et c'est la sixième fois que Saint-Symphorien fera le plein.
Tu disais, j'ai mal compris, 100 supporters d'un côté, 100 autres.
Exactement.
Ouais, ils se sont attrapés où?
Dans les rues du centre-ville, en sachant que par ailleurs il y avait un cortège de supporters messins qui est parti de la place de la République pour rejoindre.
Malheureusement, je ne change pas ma position depuis ce qui a pu arriver à Grosso lors du problème à Marseille avec le bus, et je pense que malheureusement on s'achemine petit à petit vers l'obligation et la prudence de ne plus avoir de supporters qui se déplacent. C'est malheureusement ce qui va se passer dans notre société. C'est pas malheureusement, pour le moment, c'est la meilleure des solutions, ou tout au moins la moins mauvaise.
Alors moi évidemment, je pense évidemment comme Roland. François, tu me connais maintenant, et donc effectivement je pense que il faut réfléchir à ça très sérieusement, mais c'est pas une bonne solution, mais c'est la seule.
On va suivre évidemment comment ça se passe dans les tribunes avec vous, Edgar Grollo, Patrick Muller, et sur le terrain, 17h, ce coup d'envoi de Metz-Saint-Etienne. On continue d'en parler dans un instant, vous restez avec nous dans l'intégral foot. Il y aura également l'arrivée de la première étape du Critérium du Dauphiné. Restez avec nous, vous ne raterez rien sur RMC. À tout de suite.
RMC Intégral Foot,
François Pinet.
16h41, moins de 20 minutes avant le coup d'envoi de Metz-Saint-Etienne. Barrage retour pour savoir qui jouera en Ligue 1 la saison prochaine. Match important, bien sûr, à ne pas rater, avec au commentaire Edgar Grollo et Patrick Muller au stade Saint-Symphorien. Ici, on est avec Coach Courbis, avec Marion Hédalo, et on accueille Captain Larquet. Jean-Michel Larquet est avec nous. Salut, Captain.
Bonsoir, Capitaine. Bonsoir,
Capitaine aussi.
Mais non, mais parce que j'ai l'impression d'échanger les fagnons au milieu du terrain avec toi,
voilà.
Je t'appelle Capitaine. Voilà.
Voilà. Mais ça sera un match dans l'esprit. On est d'accord, hein, on restera dans l'esprit avec respect.
Viril mais correct.
Voilà, exactement. Je préfère
ça. Salut, Capitaine.
Salut, bon, coach.
Tu vas évidemment accompagner Edgar et Patrick pour commenter cette rencontre. T'es comment là, à quelques minutes du coup d'envoi? Comment tu te sens?
Comme je le suis avant tous les matchs, c'est-à-dire anxieux, plein d'espoir, mais me posant plein de questions, en essayant de les résoudre et en étant incapable de les résoudre. Mais depuis, ça fait des décennies que ça se passe comme ça, et je vois pas pourquoi ça changerait. C'est-à-dire que, effectivement, est-ce qu'un but d'avance c'est beaucoup? Est-ce qu'un but d'avance c'est suffisant? Est-ce que un but d'avance ça suffira? Je n'en sais rien. Voilà, et puis plein d'espoir, parce que j'ai été un petit peu étonné, honnêtement, au match aller. Je n'imaginais pas qu'une équipe de Ligue 2, telle que je la connaissais, parce que j'ai vu très souvent la SSE cette année, serait capable de presque d'imposer son jeu, enfin, c'était pas flagrant, mais presque d'imposer son jeu à une équipe de Ligue 1, fut-elle en difficulté dans le classement. Voilà, j'ai été étonné, mais favorablement étonné. Ce qui n'empêche pas qu'à l'heure actuelle, je ne suis pas plus optimiste que cela.
D'être quand même prudent avec cette équipe de Saint-Etienne, il y a quand même quelque chose. Alors, il ne faut pas y penser avant la rencontre, mais quand même, il y a des nouveaux investisseurs, il y a quelque chose qui se passe quand même chez les Verts, Captain, et évidemment, la montée en Ligue 1 validerait un petit peu tout ce nouveau projet avec ce milliardaire canadien qui arrive avec Ivan Gazidis dans ses valises, qui n'est pas n'importe qui, donc ça pourrait valider évidemment tout ça.
Évolution du club souhaitable, mais contrainte et forcée, François, parce que il y a des choses qui vont beaucoup changer. En admettant que, et c'était le cas lorsque la vente a été presque officialisée, puisqu'elle ne l'est pas tout à fait encore, mais enfin bon, on est plus près de la fin du parcours que du début. Mais il y a des choses qui vont, ils ne vont plus se passer. On ne sait pas où en sont les droits télé, par exemple. On ne sait pas les aides habituelles que la Ligue donne aux clubs qui descendent vont s'arrêter. Et les présidents, en tout cas celui qui m'intéresse, puisqu'il y en a un qui s'intéresse au club, en l'occurrence Roland Romeillet, l'autre qui ne s'y intéressait pas, en l'occurrence M. Cagliazzo, celui qui s'y intéresse et celui qui a les mains dans le cambouis n'a pas la surface financière pour assumer la trésorerie d'un club comme la SSE dans les mois, dans les années qui viennent. Donc j'ai été en contact direct, puisque j'ai dîné avec le président, avec Roland, il n'y a pas si longtemps que cela, il y a un mois à peu près, et il savait que cette vente était inéluctable. Elle arrive au bon moment, et je pense à un bon acheteur. Voilà. Bon. Je dis pas un bon investisseur, je dis un bon acheteur.
Alors, on verra tout ça. Évidemment, Captain, merci beaucoup d'être venu nous voir avant ce match. Tu vas évidemment pouvoir commenter cette rencontre. Alors, pendant 90 minutes, voire plus, on va pas être copains, mais après, promis, on continuera de se parler quand même. Plus, ouais. ça dépend. On verra. Bon match à toi, en tout cas, Captain, et merci beaucoup d'être passé.
À tout à l'heure.
Merci. À 17h pour ce coup d'envoi, évidemment, de Metz-Saint-Etienne. On y reviendra. Metz qui d'ailleurs s'est incliné en handball féminin pour le match pour la troisième place face aux Danoises d'Edsberg. C'est la Ligue des Champions féminines. Elles ont perdu 37-33. Ça se passait à Budapest. Elles viennent de s'incliner. La flamme rouge dans quelques instants. L'arrivée du Critérium du Dauphiné. Première étape avec Arnaud Souk à vivre sur RMC en direct.
Eh ben on y est à la flamme rouge. Ah ben je pensais qu'on aurait un petit...
Ah ben le petit jingle, mais t'es trop rapide.
Ah bah je suis trop rapide. Bah non, mais 900 mètres il reste dans cette première étape donc du Critérium du Dauphiné. Arrivé à Saint-Pourçain-sur-Sioule, c'est une étape qui va se jouer au sprint dans quelques instants. Le dénouement, le peloton sur une très large route à l'entrée de Saint-Pourçain-sur-Sioule. On est désormais à moins de 500 mètres de la ligne d'arrivée. Pour l'instant, le peloton qui est mené notamment par Ryan Gibbons pour essayer de prendre cette courbe sur la droite et d'amener Mats Pedersen vers une première victoire. C'est lui le favori. Il va se la jouer justement la victoire au sprint dans quelques instants avec Sam Bennett et Mats Pedersen qui a été impérial sur ce sprint et qui remporte la première étape du Critérium du Dauphiné. Il n'a pas eu à forcer. Mats Pedersen, meilleur sprinter a priori du peloton, eh bien c'est démontré avec cette victoire d'étape ici à 100% sur Sioule.
Magnifique, effectivement, la victoire de Mats Pedersen. Première victoire donc dans ce Critérium du Dauphiné. Et on va suivre, évidemment, merci à Arnaud, ce Critérium tout au long de cette semaine, puisque on l'a dit, hein, c'est une sorte de répétition avant le Tour de France.
Il faudrait le récupérer pour faire attaquant dans l'équipe de Metz.
Ah ouais, bah il va vite, hein, c'est pas mal. Hein.
Bah oui.
T'as raison, coach. Mais là, c'est peut-être un peu tard, parce que le match, c'est dans 12 minutes maintenant, 13 minutes exactement, pour le Metz-Saint-Etienne, à ne pas rater. Merci beaucoup, Marion.
Merci
d'être venu et de nous avoir accompagné pendant 2 heures sur RMC.
Mais quel est ton pronostic, toi ?
Alors, jamais de pronostic.
Et jamais.
C'est pas un pronostic, c'est
quand
un
on
souhait.
Parle de Metz.
C'est un souhait. Alors, c'est quoi le souhait ?
Bah, le souhait, c'est.
C'est une victoire de Metz. Et
déjà
toi, Roland ?
Un but de Mikotadze, ça sera pas mal.
De Metz au tir au but.
Mais là, je vais souffrir vraiment. Tu veux vraiment qu'on souffre ? Peut-être.
Ça serait super.
Ah bah, si ça se termine comme ça, évidemment, par une victoire de Metz. Mais les tirs au but, c'est tellement. Pour des supporters,
c'est difficile.
Tellement dur à vivre.
C'est dur.
On va vivre ça en tout cas en direct et en intégralité sur RMC. Merci beaucoup, coach.
Merci.
Dans un instant, Edgar Grolot, Patrick Muller pour commenter la rencontre en direct donc de Saint-Symphorien avec, vous l'avez compris, Jean-Michel Larquet pour les accompagner. Restez avec nous, Simon Dutin, pour vous accompagner dans l'intégral foot, bien sûr, toute la soirée sur RMC. À bientôt.
RMC Intégral Foot.